Bonjour, vous écoutez Radio FM Plus 91 FM. Dans le fil du fer, nous tendons le micro à celles et ceux dont le parcours, les choix et les expériences de vie dessinent un autoportrait singulier. Aujourd'hui, mon invité est Mathilde Champroux. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Durant les apéros montpelliérains, que dites-vous de vous, Mathilde, aux personnes qui ne vous connaissent pas ?
Ça dépend souvent si on me demande ce que je fais dans la vie ou si c'est les à côté. Si on me demande ce que je fais dans la vie, je m'attends toujours à ce qu'on me dise « c'est quoi une médiatrice culturelle ?» Parce que médiateur, on imagine souvent le médiateur en entreprise qui est là pour un rôle de conciliateur. Et je leur dis non, le médiateur de la musique, il n'a pas du tout le même rôle. Et donc j'en viens souvent à expliquer ce que je fais, le fait que je travaille avec beaucoup de publics différents. Et souvent, ça m'amène aux mêmes questions, c'est « je suis jamais allée à l'opéra, qu'est-ce que tu me conseilles ?»
Donc, vous êtes médiatrice culturelle à l'Opéra et Orchestre National de Montpellier. Est-ce que ce poste de médiatrice culturelle correspondait à un rêve professionnel ou bien l'avez-vous construit peu à peu en découvrant ses contours au fil du travail ?
C'est surtout qu'avant de reprendre mes études, je ne savais même pas que c'était un métier qui existait. Je savais qu'il existait des commentateurs sur des spectacles, qu'il existait des conférenciers, mais je ne connaissais pas le métier de médiateur, donc je l'ai découvert pendant ma licence de musicologie. Et à la base, je me destinais à la production, plutôt dans le milieu musique classique et opéra. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ce n'était pas de la production que je voulais faire, c'était de la médiation, c'était être au contact du public, parce que j'adore la musique classique et je trouvais ça dommage de garder ça pour moi.
Avant d'être médiatrice à l'ONM, vous avez d'abord envisagé une carrière dans le son pour le cinéma, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers ?
C'est déjà un amour profond pour le cinéma et ce que j'aimais beaucoup, c'est ce qu'on était capable de faire dans l'envers du décor pour créer des ambiances ou créer de la musique, créer du son à partir parfois de trois fois rien. Les deux choses qui me fascinaient le plus, c'était comment on arrivait à faire ressentir autant d'émotions avec un doublage de qualité et avec des bruitages.
Est-ce que vous pourriez donner un exemple de ce que vous avez pu faire peut-être pendant votre formation ou alors ce que vous avez en tête par rapport au bruitage ou au son, une scène de cinéma, quelque chose qui vous a marqué ?
Alors, j'ai travaillé sur des petits courts-métrages, beaucoup de courts-métrages étudiants, puis après sur des émissions aussi, sur des petites émissions plutôt destinées aux télé sur Internet. Et puis en bruitage, j'avais surtout fait ça sur des petits courts-métrages pour des amis qui faisaient des courts-métrages d'animation. Et partir d'une bande vidéo qui est dénuée complètement de son et inventer les ambiances, les bruitages, comment est-ce qu'on reproduit tel bruitage, comment est-ce qu'on fait tel son, comment est-ce qu'on le retravaille aussi derrière. C'est un peu comme avoir de la pâte à modeler dans les mains et puis partir de rien pour faire quelque chose d'assez intéressant.
C'est très sympa la pâte à modeler, je suis d'accord avec vous. Lorsque vous étiez encore dans le monde du cinéma, avez-vous ressenti des inquiétudes face à la précarité ou aux attentes du secteur ? Y a-t-il eu ensuite une cause décisive dans votre choix d'en sortir et de passer à autre chose ?
C'est arrivé assez rapidement puisque pendant mes études j'ai essayé, je me suis fait des expériences comme tous les étudiants sur des stages, j'ai essayé de voir assez large, de pas rester que sur le cinéma mais de voir la télé, le doublage, le jeu vidéo, plein de choses différentes et le problème que j'ai assez rapidement rencontré c'est que j'ai accepté pas mal de tournages non rémunérés, non défrayés où il fallait que j'ai mon propre matériel sauf que le matériel son ça coûte cher. Et puis au bout d'un moment, les finances finissent par se réduire comme peau de chagrin. Et c'est peut-être tout simplement que je n'ai pas rencontré les opportunités qu'il fallait, que je n'avais peut-être pas les contacts qu'il fallait. Parce que c'est un métier qui marche quand même pas mal au contact. Si vous fonctionnez bien avec une équipe, on vous rappelle derrière. Et là, j'ai beaucoup fonctionné avec des gens qui me rappelaient, mais pour des projets non rémunérés. Et au bout d'un moment, ça ne met pas de beurre dans les épinards.
Donc est-ce que vous étiez une jeune femme qui n'arrivait pas à avoir des contacts ?
Je pense que oui, j'ai dû en manquer. Je pense que j'avais pas les épaules aussi pour assurer un emploi où il faudrait que je bataille pendant un long moment pour réussir à me faire un carnet d'adresses suffisamment dense. C'est autant le métier me plaisait beaucoup, autant l'insécurité qu'il peut y avoir autour m'angoissait tellement que c'était peut-être pas fait pour moi.
Aujourd'hui, Vous avez les épaules.
Alors, les épaules, oui et non, parce que je ne regrette pas d'avoir changé de métier. Je ne regrette absolument pas la situation que j'ai actuellement. Donc, c'est pas, je ne le vis pas comme un échec. Je le vis comme une expérience que j'ai pu prendre. Et elle est, de toute façon, toutes les expériences sont bonnes à prendre.
Quelqu'un vous a-t-il aidé à mettre en place la suite de votre projet de vie professionnelle? Comment avez-vous trouvé le diplôme en master de médiation de la culture à la Sorbonne Nouvelle, après le cinéma?
Il n'y a pas vraiment eu de personne, c'est plutôt moi qui me suis pris le problème à bras-le-corps en me renseignant sur toutes les formations qu'il pouvait y avoir et qui me permettaient de rester dans le milieu de la musique ou le milieu du cinéma. Et puis c'est un peu par hasard en fait que j'ai trouvé ce diplôme en me disant mais en fait tu aimes la musique, tu aimes l'opéra depuis que tu es adolescente, à quoi ça sert d'aller chercher autre chose alors que finalement tu pourrais juste partager ta passion. Donc après avec ce diplôme-là j'aurais pu partir sur d'autres choses, j'ai des amis qui sont plutôt sur des scènes de musiques actuelles, d'autres qui travaillent pour des orchestres, d'autres qui sont plutôt partis dans le théâtre. Moi j'avais vraiment envie de rester sur du classique.
Et qu'étudie-t-on d'ailleurs dans cette formation en master de médiation de la musique? Quelles sont les matières? Est-ce qu'on fait des stages? Est-ce qu'on étudie la musique? Etc, etc.
On n'étudie pas la musique à proprement parler parce on était une partie de la promotion à venir d'une licence de musicologie, donc avoir tout le bagage musicologique qu'il faut, mais qui reste quand même assez classique. Par contre, on étudie beaucoup la façon dont on s'exprime face au public, face à quel public, parce que quand je dis au public, c'est au pluriel. Donc il y a quelques cours de théâtre, il y a beaucoup de séminaires aussi, parce que comme c'est une discipline qui est assez jeune, c'est une discipline autour de laquelle on discute énormément. Ça reste l'université, donc ça reste quand même assez théorique sur certains points. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y avait beaucoup de discussions. On avait tous un parcours différent, tous des idées différentes à amener, et on nous a laissé énormément de liberté là-dessus, sur la façon dont on pouvait exprimer la situation de la musique en France, la situation de certaines musiques qui sont... qui ont plus d'a priori vis-à-vis des jeunes ou qui vont avoir plus d'a priori vis-à-vis de publics plus âgés. On a travaillé sur à peu près tout. Ça a été, on est passé des musiques populaires françaises à la musique classique en passant par le métal. Donc ça, c'est vraiment très, très large. Alors oui, on fait des stages. Moi, c'était plus de l'alternance moi, que j'ai fait. Je travaillais pour le chœur et orchestre Sorbonne Université, donc un chœur et orchestre étudiant, mais avec de très, très bons éléments. Et j'ai fait ça pendant 2 ans.
Quel est le profil des personnes qui étaient avec vous? Est-ce qu'il faut avoir master? Donc on a 20 ans, 21 ans peut-être. Donc quel est, selon vous, le profil qui est bon pour accéder à ce type de formation en médiation de la musique? Faut-il être musicologue? Faut-il savoir jouer d'un instrument? Faut-il avoir déjà eu une carrière dans le milieu?
Tout dépend de l'univers musical que vous voulez défendre. Si vous voulez être médiateur dans la musique classique, ça aide d'avoir au minimum des connaissances en musique, au mieux avoir une formation musicologique, non pas parce qu'elle est obligatoire, mais parce qu'elle facilite la tâche. Je sais que je vais passer beaucoup moins de temps à faire une préparation sur un répertoire musical que je connais déjà, pour lequel je sais dans quel sens le prendre, plutôt que si on me demande par exemple de faire une préparation sur un répertoire que je ne maîtrise pas du tout, parce que la musique c'est extrêmement vaste, donc il y a plein de répertoires que je ne maîtrise pas. Si on me demande de faire quelque chose sur de la musique du Moyen-Âge, c'est un répertoire que je maîtrise très peu. Donc il va falloir que je fasse beaucoup plus de recherches pour faire quelque chose qui me satisfasse et que je me sente en capacité de présenter au public. Alors que si vous mettez du classique, du romantique, du moderne, il n'y a aucun problème, j'y vais la tête baissée. Donc ça dépend beaucoup du profil. Moi j'ai fait de la musique pendant longtemps, j'étais flûtiste, mais je n'utilise plus mon instrument, je ne l'utilise pas dans mes activités de médiatrice. Déjà parce que, pour être tout à fait honnête, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti ma flûte de son étui. Et parce que si je veux faire écouter de la flûte traversière à des élèves, soit je vais leur dire y a des musiciens formidables dans l'orchestre pour le faire, qui ont un bien meilleur niveau que le mien, et donc ce sera beaucoup plus représentatif qu'ils viennent écouter l'orchestre plutôt que d'écouter Mathilde Champroux qui joue 3 notes avec sa flûte.
Durant votre formation en médiation de la musique, avez-vous douté de votre place dans ce champ professionnel encore assez jeune, comme vous l'avez dit? Quelles étaient vos craintes ou vos aspirations, vos forces ou ce que vous pouviez penser comme des faiblesses à ce moment-là?
Mes craintes, inévitablement le fait de s'exprimer devant du public. Parce que dans n'importe quel public, vous avez de tous les profils, vous avez les personnes un peu rassurantes qui vous sourient et qui hochent la tête gentiment. Et puis vous avez des personnes qui des fois croisent les bras avec un air, avec les sourcils froncés. En général, ce sont des personnes qui sont juste extrêmement concentrées. Mais ça, c'était un peu ma crainte. C'était le regard des gens. Puisqu'inévitablement, vous êtes seul face au public. Donc ça, c'est toujours impressionnant. Et ça, je pense que ça partira jamais. Mais j'ai tendance à croire que c'est la preuve que ça me tient à cœur. C'est que j'ai envie de faire quelque chose de qualité. Si je m'en fichais complètement, je me ficherais royalement du regard sur moi. Et puis aussi parce que je représente une institution. Je ne me représente pas moi-même, je représente une institution. Donc il y a forcément un gage de qualité derrière. Donc ça faisait partie de mes principales craintes. Ma deuxième crainte, c'était aussi d'avoir du mal à trouver du travail, puisque j'avais déjà expérimenté ça. Et la médiation étant ce qu'elle est, étant quelque chose de très jeune, toutes les structures n'ont pas encore bien saisi l'importance du développement culturel et de la médiation. Donc je ne savais pas trop comment j'allais m'en sortir. Après, pour ce qui me rassurait, c'est que j'étais à peu près sûre de savoir dans quel milieu je voulais travailler. Et je savais que j'avais de bonnes compétences de vulgarisation scientifique et que ça m'aiderait forcément pour la suite. Parce que c'est aussi ça une des principales choses à savoir faire quand on fait ce métier-là, c'est savoir passer du musicologue qui utilise des termes très, très compliqués et très savants parce qu'il parle à d'autres musicologues, mais on ne va pas se le cacher, le vocabulaire musicologique c'est vite pompeux, et savoir le traduire de manière efficace, simple et claire pour le public.
De quelle manière avez-vous acquis ces compétences ?
Alors ça, j'ai commencé à l'étudier parce qu'on avait un cours qui s'appelait « Analyse musicale adaptée à la médiation ». Et j'avais un professeur formidable, Philippe Catté, qui nous avait fait un cours très intéressant là-dessus sur comment est-ce qu'on met en image et comment est-ce qu'on donne des personnages aux instruments ou à la musique pour réussir à l'expliquer efficacement. Et ce, avec tous les répertoires. Il nous a fait écouter vraiment tout n'importe quoi. Et je pense que je suis partie de ça pour réussir ensuite à expliquer des choses, des termes musicaux qui sont parfois très compliqués ou très alambiqués et que j'essaye de distiller des fois en donnant des exemples ou en essayant d'imager les choses. Parce que bon, il y a des termes musicologiques qui ne sont pas évidents à comprendre, ou même des concepts musicaux qui ne sont pas faciles à comprendre si on n'a pas eu la formation musicale derrière.
Est-ce que vous pourriez donner un exemple, là, au débeauté, si c'est possible, la dernière chose où on a fait...
Par exemple, quand j'essaye d'expliquer ce qu'est la musique atonale, par rapport à la tonalité, ça implique de savoir ce que c'est que la tonalité. Donc, en général, je prends l'exemple soit d'un escalier, soit d'une échelle. Quand vous prenez une échelle, vous pouvez avoir des marches, ou même un escalier, des marches qui vont avoir plus d'importance que d'autres. Ça, c'est la musique tonale. C'est que vous avez des marches sur lesquelles on appuie plus, qui sont celles sur lesquelles on se repose. Quand vous êtes sur de la musique atonale, toutes les marches ont la même valeur. Et en général, cette métaphore-là fonctionne assez bien parce qu'on se rend compte que dans de la musique tonale, on sait sur quoi se reposer, on sait où est la fin, on sait où est la suspension. Dans la musique atonale, c'est beaucoup plus flou, on est beaucoup plus perdu.
Merci de ne pas nous rendre perdus. Comment avez-vous envisagé votre insertion professionnelle après le diplôme ? Avez-vous rencontré des obstacles ou des moments de découragement dans vos premières recherches ?
Alors le moment le plus décourageant, et ça je pense qu'on l'a tous expérimenté, c'est la recherche du premier emploi, entre guillemets, même si j'ai la chance d'avoir fait 2 ans de quasi-alternance, donc déjà ça m'a donné une expérience, mais le fait que soit personne ne vous rappelle, soit on vous dise « désolé, mais il faut 5 ans d'expérience minimum ». Donc inévitablement, on se heurte à cette difficulté-là. Et en fait, mon premier boulot à temps plein, je l'ai trouvé en envoyant une candidature spontanée. J'ai écrit à une grande partie des opéras en France en me disant « on ne sait jamais, ça peut marcher ». Et c'est l'opéra de Rennes qui m'a rappelé un mois et demi plus tard en me disant « on cherche une chargée de com ». Donc en fait, j'ai commencé par faire de la communication et puis je grattais quelques missions de médiation ou d'accueil des publics, parce que c'est ça que je préférais faire. Mais pendant un an et demi, j'ai été chargée de com principalement. Et puis ensuite, j'ai trouvé l'annonce, l'Opéra de Montpellier recrutait, et puis parmi tous les profils, c'est le mien qui a su convenir, donc j'en suis un peu plus heureuse.
Youpi. Et donc, est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui nous écoutent et qui sont en train de se dire « Ah, le monde de la musique, le monde opératique, etc., c'est un peu fermé. » Et c'est peut-être une idée que l'on a. Et de dire « Non, envoyez des lettres de motivation, des CV sans trop savoir. » Est-ce que votre exemple est un exemple à suivre ?
Déjà, je fais partie de la grande majorité des personnes qui pensent qu'envoyer une candidature spontanée, ça sert à rien, jusqu'au jour où ça a fonctionné. Donc déjà, j'aurais tendance à dire, s'il y a des structures qui vous intéressent, n'hésitez pas à envoyer. Dans le pire des cas, vous dites « Coucou, je suis là, si vous avez besoin, je suis disponible ». Donc déjà, c'est la première chose. Et ensuite, l'opéra n'est pour moi pas un milieu fermé, au contraire, c'est quelque chose de très ouvert. Et on est plus de 200 à l'Opéra de Montpellier, ça ne veut pas dire qu'on est 200 fans d'opéra ou de musique classique. Il y a des gens qui sont arrivés dans ce métier-là, dans ce milieu-là, parce que leur métier correspondait, mais qui sont venus à apprécier l'opéra par la suite. J'ai des collègues qui n'ont pas du tout étudié la musique, qui ne connaissaient rien à l'opéra avant de venir, puis ils sont rentrés par une porte, ils n'en sont jamais ressortis. Donc... je pense au contraire qu'il y a une telle multitude de métiers à l'opéra qu'on peut facilement y arriver sans pour autant connaître l'opéra. On peut ne jamais avoir entendu un opéra avant d'entrer et puis finalement s'y mettre avec le temps.
C'est pour ça que je suis très content de faire cette série d'émissions avec le ONM. Faisons découvrir les métiers de cette institution. Alors Mathilde, lors de la préparation de votre fil du fer, vous m'avez dit que l'absence de son vous angoisse, qu'elle évoque la mort. Qu'est-ce que cela révèle, selon vous, de votre rapport au monde ?
Je n'aime pas le silence parce que mon attention va se focaliser sur le moindre bruit et c'est à ce moment-là que le moindre bruit devient plus qu'angoissant. Et puis surtout parce que j'aime... En fait, soit quand je suis dans la rue, soit j'ai un casque sur les oreilles avec de la musique, un podcast ou quelque chose qui me fait divaguer un peu, soit au contraire, je vais écouter ce qui se passe autour de moi, pas dans une volonté voyeuriste d'écouter les conversations des gens, mais parce que j'aime bien entendre, tiens, à tel endroit, on entend le vent dans les arbres, ça fait tel bruit, là, il y a tel oiseau qui chante. Le fait d'entendre des voix différentes, des accents différents aussi, parce que c'est de la musique aussi, la façon de parler, on a tous une façon de parler qui est plus ou moins musicale. Donc c'est cette espèce de... cette espèce de brouhaha ambiant qu'on entend dans la rue, je l'aime bien. Parce que... je ne dis pas qu'il faudrait non plus avoir du son tout le temps dans la tête, mais parce que je le trouve plus rassurant qu'un silence complet qui, au contraire, me fait penser à « je suis toute seule, il n'y a personne autour » et ça, je trouve ça angoissant.
Donc, pas de caissons sensoriels. nous arrivons au moment de la pause musicale. Pour cette pause musicale, c'est, tenez-vous bien, Metal Brute Justice Mode, une chanson de Masayoshi Soken et Michael Christopher Koji Fox, extraite du jeu vidéo Final Fantasy le 14. Est-ce un titre qui résonne avec votre parcours, Mathilde ?
Avec mon parcours, non, pas spécialement, même si c'est un jeu que j'aime énormément et avec lequel j'ai pu rencontrer des personnes absolument formidables qui sont devenues, pour certains, mes meilleurs amis et puis pour l'un qui est l'homme avec qui je vis depuis 4 ans.
Autre youpi. Et on écoute. We'll be right back. Vous écoutez Radio FM Plus, 91 FM, où ça a bougé. Médiatrice culturelle à l'Opéra Orchestre National de Montpellier, Occitanie, Mathilde Champroux est au micro du Fil du Fer. Reprenons notre conversation, Mathilde. Pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser dans la musique classique ? Qu'est-ce que ce répertoire incarne pour vous, intimement et culturellement ?
Musique classique, c'est un des premiers répertoires que j'ai entendu parce que ma maman aime beaucoup la musique classique, donc j'étais bercée avec ça depuis que je suis petite. J'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans et forcément ce qu'on nous fait écouter ou étudier, c'est beaucoup de pièces classiques. Donc forcément, j'ai été baignée là-dedans dès le début. Et puis, j'ai encore un souvenir assez vif de la première fois où je suis rentrée à l'opéra, donc qui était l'opéra de Rennes, c'était il y a presque 20 ans, d'avoir été émerveillée par le lieu, émerveillée par ces gens dont la voix arrive à traverser la salle sans un seul micro. Et c'est une musique qui continue aujourd'hui à beaucoup m'émouvoir, à beaucoup me faire vibrer. Vous me faites écouter Tosca, je pense que je verse une petite larme. Donc c'est vraiment une musique qui me tient beaucoup à cœur. J'ai grandi avec des films comme Fantasia, donc c'est vraiment un répertoire que j'aime. Et surtout, je me suis assez vite rendu compte en grandissant que c'est pas un répertoire évident pour tout le monde. Parce que en général, on se forge une culture musicale déjà à partir de ce qu'on écoute dans l'enfance et puis avec ce qu'on découvre. Et je me suis rendu compte que c'était une musique qui avait vraiment besoin, pas forcément besoin, mais c'était une musique qu'il était important de montrer, de dire que c'est pas une musique poussiéreuse ni une musique qui est morte, que c'est pas parce que Mozart ou Beethoven sont morts depuis plus de 2 siècles que ça veut dire que c'est une musique qui n'a pas d'intérêt à être jouée aujourd'hui. Donc j'avais envie aussi de sensibiliser ou du moins de partager ça déjà avec mes amis, et puis je me suis dit pourquoi m'arrêter avec mes amis et pourquoi ne pas en parler aussi à des publics qui parfois peuvent avoir peur de franchir les portes de l'opéra.
Nous en reparlerons. Travailler à l'ONM, qu'est-ce que cela représente pour vous personnellement et puis, allez, symboliquement ?
Alors souvent, j'ai pas mal de personnes qui me disent « Ah ouais, pas mal !» quand je leur dis que je travaille pour l'Opéra Orchestre National Montpellier-Occitanie. Parce que c'est vrai qu'on a un nom à rallonge. Et puis ne serait-ce que le mot « opéra ». Le mot « opéra », ça, en général, ça évoque quelque chose d'assez classe. Moi, ça m'évoque l'impression d'être à la maison. Parce qu'on ne parle pas d'une maison d'opéra pour rien, c'est vraiment cet écrin dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens à ma place. C'est aussi le travailler pour une maison qui a à cœur de ne pas s'asseoir sur des publics déjà acquis, mais qui a vraiment envie, qui fait vraiment des efforts quotidiens, de saison en saison, pour s'ouvrir au maximum sur tous les publics. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille autant, c'est d'aller accueillir le plus grand nombre, de tendre la main aux gens. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que j'aime profondément avec l'Opéra de Montpellier, c'est cette capacité qu'ont toutes les équipes, tous les ans, de vraiment accueillir le plus de gens possible pour ne laisser personne sur le bas-côté. Alors après, voilà, symboliquement, c'est sûr que ça fait... quand on me dit « Ah ouais, c'est classe », je me dis « Ouais, c'est pas mal l'Opéra de Montpellier ». Donc en général, en tout cas, je suis très fière de travailler pour une maison avec une telle renommée et qui fait autant de choses pour le public montpelliérain et les publics qu'il y a autour.
Alors, tendre la main. Votre métier, vous le dites, ça consiste à tendre la main. Mais à qui l'attendez-vous ? Et que mettez-vous en place pour qu'elle soit saisie ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est finalement que votre métier ? Et aussi, pour vous personnellement, comment vous le faites vivre ce métier ?
Alors, le service dans lequel je travaille, principalement, nous, on va chercher ce qu'on appelle les publics non acquis. Donc, c'est tous les publics qui ne viennent pas d'eux-mêmes à l'opéra. Donc, on va chercher les publics scolaires. Ça va de la toute petite enfance jusqu'aux étudiants. On va chercher aussi les publics des associations à caractère social, les publics éloignés de la culture par la maladie, le handicap, les situations de précarité. Donc, on ne met pas tout ce public-là dans un seul grand sac. C'est des publics différents, avec des profils différents, des attentes différentes. Et donc, on leur propose forcément des spectacles ou des ateliers différents. On ne va pas proposer la même chose aux maternelles qu'à des étudiants. C'est aussi, notamment par exemple pour les personnes en situation de handicap, c'est essayer de s'interroger sur, avec eux, quelles sont leurs attentes, de quoi ils ont besoin, et ce qu'on peut leur proposer autour. Donc on propose des spectacles qui vont être adaptés aux personnes malvoyantes ou non-voyantes, avec des audiodescriptions, avec des visites tactiles de décors. On travaille avec des personnes malentendantes ou sourdes, parce qu'on peut profiter de la musique même en ne l'entendant pas avec les oreilles. Et là, on va proposer des spectacles qui vont être signés avec des gilets vibrants, avec un surtitrage adapté. Pour les personnes en situation de handicap psychique, c'est pareil, ça va être un accueil un peu spécifique, s'assurer des besoins des personnes, des profils aussi des personnes s'il y a besoin de prévoir quelque chose. Et notamment autour de ce type de handicap, cette semaine, on propose une séance culture relax sur Charlie Chaplin.
Donc, on enregistre le 14 avril. Alors, est-ce que vous pourriez, pour permettre à notre auditoire de visualiser, nous dire voilà ce que c'est que, avec un des exemples de production à l'ONM, ce que c'est que porter un gilet vibrant, de signer un exemple avec comment vous faites ce spectacle-là pour des publics non acquis, avec des exemples concrets.
Alors, si je prends l'exemple, par exemple du Petit Prince, qui est un spectacle jeune public qu'on a fait au mois de novembre dernier, les enfants ou les adultes, puisqu'il y a eu des séances tout public également, qui portaient les gilets, ont une espèce de gilet, c'est comme une sorte de plastron rigide, qui traduit les ondes sonores en vibrations. Donc en fonction de la musique, des instruments, ça vibre plus ou moins fort. Et sur scène, il y avait à la fois un comédien parlant et un comédien sourd. Puisque l'idée n'est pas du tout de faire signer le spectacle à un comédien qui est entendant, mais bien de donner la parole aux personnes sourdes. Donc c'était une sorte de dialogue entre les deux, entre le comédien qui jouait en signant en langue des signes française et le comédien qui lui répondait, mais en parlant comme vous et moi.
Super. Vous m'avez affirmé que chacune et chacun peuvent aimer une œuvre sans en maîtriser les codes. À quel moment de votre parcours l'avez-vous compris et vécu vous-même ?
Je pense que je l'ai compris assez tôt parce que la première fois que j'ai mis les pieds à l'opéra, je me suis pas sentie étrangère ni pas à ma place, même si en effet, en tant que gamine de 12-13 ans, je me suis retrouvée entourée d'adultes, parce qu'il n'y avait pas non plus beaucoup d'enfants. Et je me souviens que c'était la Pietra del Paragone que je suis allée voir. Je ne saurais plus vous reparler de la mise en scène, mais je ne me suis pas sentie étrangère à ce milieu-là, même si je n'ai pas tout compris, même si je n'ai pas suivi l'intégralité de l'histoire, parce que c'est quand même un opéra entier, c'est assez conséquent. Donc je pense que je l'ai compris assez tôt, et je reste persuadée qu'on peut apprécier une musique sans comprendre que ça raconte ça, que là il se passe telle ou telle chose, parce que la musique, c'est avant tout de l'art, et c'est comme, par exemple, je ne connais pas grand-chose à la peinture contemporaine, mais je pense que je suis capable d'apprécier une toile, qu'elle soit figurative ou abstraite, sans pour autant avoir les intentions du peintre derrière. Parce que sinon, ça veut dire qu'on intellectualise énormément l'art, et c'est complètement le contraire de ce qu'on essaye de faire.
C'est d'où votre désir de vulgarisation et de donner accès par un langage clair et imagé, sensuel peut-être, à votre auditoire de public non acquis, c'est
tout ça ? Tout à fait, parce que quand je présente les œuvres, l'idée c'est pas du tout d'aller donner des explications extrêmement théoriques dignes d'une conférence de musicologie, parce que sinon là je vais dégoûter le public ou je vais le perdre. C'est plutôt donner des petites clés pour dire là, faites attention à ça, ou le compositeur a écrit ça dans tel contexte, à telle période de sa vie, parce que les petites anecdotes, c'est les choses dont on se souvient. Alors que savoir que tel concerto pour piano est en temps de mouvement et en telle tonalité, on s'en fiche complètement parce que c'est pas ça qu'on retiendra. Ce qu'on va retenir, c'est j'ai aimé telle partie, j'ai moins aimé telle autre partie, et ça aussi, c'est OK. C'est aussi ça que je répète à des gens qui ont parfois un peu peur de venir, c'est qu'ils ont le droit de pas aimer. Il y a des concerts où on va avoir trois parties avec trois œuvres différentes. Peut-être que l'œuvre d'introduction, on n'aime pas trop. Le concerto, on va adorer. Et puis la dernière partie, c'était sympa, mais on n'y reviendra pas trop. Ou inversement, il y a eu une petite partie, on était moins convaincus et le reste, c'était incroyable. Parce que ça fait partie de ça aussi. L'art, c'est comme quand on va à une exposition, encore une fois. Il y a des tableaux qu'on aime, il y a des tableaux qu'on n'aime pas. La musique, c'est pareil.
Y a-t-il eu une rencontre, un atelier, un moment où vous vous êtes dit « Voilà exactement la raison pour laquelle je fais ce métier ?»
C'est pas forcément une rencontre ou un moment, mais c'est plutôt des petites choses, des petites attentions. Par exemple, ce matin, on a reçu un mail extrêmement gentil d'une dame qui a amené un groupe d'enfants en situation de handicap la semaine dernière et qui tenait à nous remercier parce qu'on a pris soin de s'assurer de leurs besoins, de leurs demandes en amont du spectacle, de bien les accueillir, et qui nous a dit que c'est pas toujours évident parce qu'ils sont pas toujours accueillis de cette manière-là, que parfois c'est un peu compliqué et que la sortie est déjà suffisamment stressante. Et qu'avoir un bon accueil, c'est rassurant et ça donne envie de revenir. Donc ne serait-ce que recevoir ce genre de choses, on se dit « Ok, on a bien fait notre travail et on va continuer à bien le faire ». Donc c'est vraiment pour ce genre de choses que je ne voudrais pas faire un autre métier.
Alors, selon vous, et sans parler nécessairement ou écraser la concurrence, de dire quelle est la spécificité de l'ONM en ce qui concerne la médiation culturelle ?
Ah oui, en effet, je pense que la plupart des autres structures font énormément de belles choses pour tous les publics. Mais ce qui nous démarque, c'est la multiplicité des propositions. On a une proposition de spectacle éducatif et de répétition générale qui permettent à un maximum de jeunes et de moins jeunes de venir, que pour l'instant, je n'ai pas vu chez un autre orchestre ou un autre opéra. Donc on a vraiment... L'idée, c'est pas d'avoir deux dates dans l'année où tout le monde va se ruer, mais bien de distiller tout au long de l'année des choses différentes, des univers différents et des ambiances différentes. Et je pense que c'est ça aussi qui fait notre force. C'est avoir un catalogue quand même suffisamment vaste et large pour faire venir le plus de public possible.
Et comment vous vous organisez dans votre travail ? Alors, on vous dit, voilà la saison, maintenant débrouille-toi.
Alors, la saison en général, c'est vrai que quand j'ai la saison entre les mains, j'essaye de me placer des temps forts en me disant, bon, à tel endroit, ça va être un peu plus dense sur tel projet. À tel endroit, j'ai un flash opéra sur un opéra, donc je commence bien en amont à lire des choses. Après, je ne me leurre pas. Je sais que quand je dis je commence en janvier pour le mois de mars, je commence mi-février parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses qui se sont rajoutées dessus et je remets à plus tard ce qui vient plus tard. Donc ça, c'est dans l'idéal, j'essaye de me faire un pré-planning. Et puis dans la réalité, il y a plein de choses qui viennent se rajouter. Donc il y a des semaines où je vais être très peu au bureau parce que je vais avoir des visites, je vais avoir des préparations musicales, je vais avoir des ateliers à l'extérieur. Et dans ces cas-là, l'administratif attend. Et puis il y a des semaines, où, comme cette semaine, où je vais pouvoir davantage avancer sur la saison prochaine, sur des choses plus administratives. Donc c'est assez variable, il n'y a pas de semaine type.
Et est-ce que vous avez de la liberté assez large pour pouvoir construire vos outils de communication, de communication auprès des publics qui viennent vers vous ?
Oui, quand même, beaucoup, ne serait-ce que la façon dont je conduis les préparations musicales que je fais auprès des scolaires. Personne ne me demande de relire ce que j'ai fait. En même temps, ce serait compliqué, parce qu'en général, c'est une liste d'éléments, et puis après, je brode avec tout ce que j'ai lu et écouté. Donc non, je ne suis pas bridée là-dessus, je suis très libre sur la façon dont je conduis les ateliers comme celui-ci. Et puis, il y a aussi énormément d'ateliers ou de propositions où c'est beaucoup de travail d'équipe.
On réduit parfois la médiation à une activité d'accompagnement. Mais vous, Mathilde, comment définissez-vous ce que vous faites ? Est-ce un engagement, une forme de création ou juste une façon de gagner votre vie ?
Si c'était une façon de gagner ma vie, je pense que ça fait bien longtemps que j'aurais changé de métier parce que j'y mettrais plus aucune passion. Non, il y a une forme d'accompagnement parce que vous avez la confiance d'un public qui vient vous voir parce qu'il a besoin d'informations, parce qu'il cherche à connaître quelque chose, soit sur l'opéra-comédie, soit sur une œuvre. Donc il y a forcément une forme d'accompagnement, le fait de dire « Viens, je t'emmène découvrir telle ou telle œuvre ou je t'emmène découvrir l'opéra-comédie ». Je ne sais pas si j'arriverai à réduire en fait à un mot. Il y a une forme d'engagement aussi, puisque de la même manière que vous accompagnez le public, vous vous engagez auprès du public à répondre à ses attentes, à répondre à ses questions et à ne pas le frustrer, parce que c'est pas l'objectif. Donc oui, il y a une forme d'engagement et d'accompagnement.
Si j'ai bien compris, vous vous considérez comme une passeuse. Alors, que cherchez-vous à transmettre profondément au fil de vos interventions, pardon, Mathilde, avec un exemple peut-être d'opéra ou de concert ?
J'essaie en général beaucoup de dédramatiser. Parce que, bon, bah, y a des clichés qui sont un peu tenaces sur l'opéra. C'est pour les vieux, c'est trop cher, c'est trop long, je comprends pas. Donc en général, j'essaie d'expliquer, un peu de détricoter tout ça. Pour expliquer, bah, il n'y a pas que des opéras qui durent 4 ou 5 heures, il y a aussi des opéras qui durent 1 heure et demie. Il n'y a pas que des opéras avec des sujets très sombres, très, très sérieux. Il y a aussi beaucoup d'opéras très légers dans lesquels on rigole et c'est ok de rigoler. C'est ok d'applaudir, c'est ok de rigoler, c'est ok de sourire. On n'est pas là pour tirer la tronche et avoir l'air hyper sérieux. C'est pas ça la musique, c'est pas ça l'opéra. J'essaye aussi de rappeler que bah, y a beaucoup d'opéras, quand ils ont été créés, les gens ne se posaient pas la question de « oulala, il faut être super sérieux ». C'était aussi une bonne ambiance dans la salle. Donc c'est aussi essayer de se replacer là-dedans. Et oui, voilà, dédramatiser, je pense que c'est le terme le plus logique pour essayer de rendre ça plus facile d'accès. Puis j'ai même des fois des amis qui me disent « Ah bah tiens, j'ai entendu telle œuvre, est-ce que tu connais deux, trois choses que tu pourrais me raconter ?» Et puis j'essaye de, voilà, si je connais déjà, je leur raconte deux, trois petites choses que je sais dessus. Si je connais pas, j'essaye de faire des petites recherches pour expliquer un peu de quoi ça parle.
Passons à la coulisse professionnelle de l'ONM. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passée votre embauche dans l'institution ? Quelles ont été les étapes durant la procédure de sélection et d'embauche ?
En fait, j'avais vu passer sur le site Profil Culture une annonce pour un poste de médiation à l'Opéra de Montpellier. Et ça tombait plutôt bien parce que, même si j'adore l'Opéra de Rennes, qui est l'opéra qui m'a vu grandir, j'y exerçais un poste qui correspondait moins à ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit c'est dans le milieu dans lequel je veux travailler, c'est une maison nationale qui a opéra et orchestre, donc ça réunissait les deux univers, et puis ça correspondait vraiment à ce que je voulais faire. Donc j'ai tenté ma chance, et puis en fait au début j'ai cru que bon, ils avaient pris quelqu'un d'autre parce qu'au bout d'un mois j'avais pas de retour. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, je tenterai ma chance avec quelqu'un d'autre. Et puis je reçois un mail me disant que je suis conviée à l'entretien. Et dans le mail que j'avais, il m'était demandé de présenter le Boléro de Ravel pour des collégiens et la Flûte enchantée de Mozart pour des élémentaires. Donc je travaille un petit peu autour de la structure pour connaître un peu l'histoire de l'Opéra de Montpellier que je ne connaissais pas à cette époque-là puisque j'avais jamais mis les pieds à Montpellier. Je travaille un peu sur le Boléro et la Flûte enchantée, ça c'était des œuvres que je connaissais déjà. Et puis arrive le jour de l'entretien, j'avais face à moi la directrice générale, Valérie Chevalier, la responsable des ressources humaines et le secrétaire général de l'époque. Et donc l'entretien se déroule, en tout cas j'en ai pas un souvenir horrible, j'en ai plutôt un bon souvenir, c'était beaucoup sur l'échange et ça s'était plutôt bien passé et on m'avait dit vous aurez un retour dans les deux semaines. Deux jours après j'avais une réponse. C'est que ça s'était bien passé.
Youpi, numéro 3. Quel était très rapidement en mots votre état d'esprit durant cette procédure d'embauche ?
Un peu stressé, parce que c'est le genre d'épreuve qui me stresse un peu. Mais une fois que j'ai été dans mon élément, je me suis dit, bon allez, lance-toi, de toute façon, t'y es. Alors c'est parti, on y va.
Youpi, numéro je ne sais plus combien. Ainsi s'achève ce fil du fer en compagnie de Mathilde Champroux. Merci à l'Opéra et Orchestre National de Montpellier ainsi qu'à Federica Forte pour avoir permis une nouvelle conversation avec un des membres de l'institution afin d'en faire découvrir le métier et la personnalité. Merci Yann à la technique.